Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord.
Bonjour à tous, nouveau numéro de ce podcast et je suis aujourd'hui aux côtés de l'un des animateurs radio préférés des Français. Il est sur Énergie tous les jours de 15h à 20h, animateur télé également, homme de scène mais aussi figure de YouTube où sa chaîne compte 3,5 millions d'abonnés. Ah, rien que ça, vous l'avez reconnu. Il s'agit bien évidemment de Coé. Bonjour Coé, comment ça va ?
Bonjour, ça va super.
Merci, un grand merci vraiment d'avoir accepté de participer à ce podcast de Télé Loisirs. Le principe, je le rappelle, il est très simple. Tu vas nous raconter ton quotidien de papa. Je te vois sourire à quoi ressemble papa Coé dans la vraie vie, on va tout savoir. Alors, tu as deux enfants et tiens, pour lancer cette discussion, la traditionnelle question de début.
Alors, attendez, je réponds. Ça n'est pas mes enfants, mais je les coupe. Je te réponds plus tard. Voilà, non, c'est pas... Quand c'est eux, je réponds.
Eh ben, on le gardera en montage. Donc, effectivement, quand c'est eux, tu confirmes que tu réponds systématiquement.
Mais même en émission, tu peux pas t'imaginer ce qu'ils m'ont fait. Ils m'appellent pendant que je parle. Le summum, c'était quand mon fils m'a appelé. Je devais rentrer sur scène à la Cigale.
Ouais.
Quand même une salle qu'on fait pas tous les jours. Hein. C'est plus de 1000 places. C'était rempli. Et pendant le générique, mon fils m'appelle et me dit comment je fais pour le Uber parce que j'ai pas les codes. J'ai dû retarder mon retard de scène de 10 secondes parce que je commandais une pizza sur Uber. Bon voilà, c'est prioritaire. Je sais que ça peut paraître ridicule. Mais bon.
Alors justement, pour les situer, hein, c'est de l'audio, donc il n'y a pas d'image évidemment, mais pour bien les situer, tes enfants, quel âge ont-ils? Comment s'appellent-ils?
J'ai mon fils, c'est Valmont. C'était le premier. Il a 20 ans, bientôt 21 ans là, au mois de février. Et ma fille Ivana, elle a 18 ans. Voilà, avec toute la misère des jeunes du moment et la vie pas facile qu'ils ont.
On va en parler. Alors, c'est pas facile, mais si tu devais, toi, te décrire cette fois-ci en tant que papa, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu es un papa poule, un papa proche de ses enfants? Raconte-nous.
Ouais, je suis un papa trop protecteur, mais trop protecteur.
C'est-à-dire,
je vais essayer de faire en sorte que tout soit pré-mâché pour eux, que le frigo soit plein, que les choses qu'ils aiment soient dans le frigo, que je leur fasse ce qu'ils aiment, que voilà, je sais que je suis, je sais que maintenant ils sont grands et que je sais que il va falloir à un moment donné lâcher cette bride parce que les enfants sont assez cruel dans l'autre sens, c'est-à-dire que eux quand ils ont leur indépendance qui arrive, ils vous disent salut, à bientôt, ils vous disent même pas c'était super. Ouais. Si encore ils disaient merci pour toutes ces années, mais c'est le cycle de la vie parce que je crois qu'on a été comme ça avec nos parents et qu'à un moment donné voilà, il faut couper ce cordon et c'est vrai que j'ai encore un petit peu de mal à le couper parce que j'aime vraiment faire en sorte qu'il soit bien.
Donc papa poule bienveillant, est-ce qu'un papa qui gueule de temps en temps?
Mais non, je gueule beaucoup.
Alors, expliquez-moi, parce qu'on a du mal à t'imaginer en papa sérieux en train de recadrer ses enfants. On voit le Coé humoriste, le Coé blagueur, mais il y a un papa quand même capable de mettre les points sur les i.
C'est le même problème que quand je gueule contre mon banquier. Quand j'appelle un banquier et que je gueule, le gars, il me regarde avec le sourire, il me dit « Ah, monsieur Coé, qu'est-ce que vous nous faites rire ?» Tu vois, ce que je veux dire, un mec, c'est le problème dans ma situation, c'est que quand je gueule, il a du mal à prendre au sérieux.
Question de crédibilité.
Non, t'inquiète pas, ils savent très très bien que quand je suis pas content, je suis pas content. Parce que ils ont toujours fait la différence entre le père à la maison, je suis pas non plus d'une rigidité dingue, mais j'aime les bonnes manières, j'aime que les enfants soient polis, j'aime que les enfants voilà, il y a des choses que je supporte pas, je supporte pas le laisser aller, voilà. Et donc j'ai toujours été comme ça et mon métier, ils l'ont toujours connu.
Ils ont grandi avec finalement.
Ils ont grandi avec donc
avec le papa animateur, le papa humoriste.
Et puis je les ai assez tenus à l'écart de ça, très honnêtement, pendant une bonne quinzaine d'années. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait en sorte que j'étais pas le père qui emmène sur les plateaux avec les gamins qui jouent dans la loge. Ça a pas trop été mon truc parce que je voulais pas leur montrer cette espèce de vie paillette qui est pas une vraie vie, qui n'est qu'un métier. Moi, je fais un métier. Je suis pas une star ou un mec. Je fais un métier. Donc je voulais pas qu'ils aient une fausse idée de la vie. Je voulais pas qu'ils aient une idée facile. Et je me suis dit peut-être que quand ils seront dans un âge plus sensé où on commence à regarder la vie, vers 15 ans, ça me paraît pas mal. Et je me suis dit là voilà, ils viennent quand ils veulent. Ils viennent quand ils ont envie. Ils amènent des copains à la radio, au studio, au bureau, quand ils veulent. Là, j'ai pris mon fils en stage plutôt que de s'emmerder à la maison. La dernière fois, je lui dis, tu viens bosser avec tout le monde.
On les entend parfois à l'antenne.
Ouais, mais ça, c'est un jeu. Mon fils, je l'ai fait travailler la dernière fois. Je lui dis, t'es pas le fils du patron. Dès que t'as des vidéos, tu vas démonter les projecteurs. Tu vas aider les équipes. Et puis, il le fait. Et il monte les câbles et il me dit non. Je lui dis, on rentre. Il me dit non, je peux pas. J'ai pas fini de ranger avec eux. C'est ça. Enfin, j'espère que pour l'instant, en tout cas, ça prend le bon sens. Et c'est vrai que ça les amuse maintenant de faire des trucs truc à l'antenne avec moi. J'ai jamais voulu montrer mes enfants avant. Et le jour où ils m'ont dit oui, ok, ça nous amuse, bah là, ok, ils sont grands.
Alors, tu es un papa solo aujourd'hui, puisqu'avec la maman de tes deux enfants, vous vous êtes séparés hein, il y a 4-5 ans, et cela après 20 ans de vie commune. Une question très très simple, Koé, cette séparation, ce divorce, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport avec tes deux enfants?
Ah, je pense que ça ne m'a amené indépendamment, dans la vie de parents, hein, dans la vie de papa, ça ne m'a amené que des bonnes choses.
C'est-à-dire?
C'est assez rare de le dire, mais dans la vie de papa, parce que... Parce que j'ai passé des années à travailler beaucoup avec des horaires un peu en décalé. Quand j'étais en week-end, c'est-à-dire je profitais beaucoup d'eux. C'est-à-dire je pense partie de ces gens comme des gens qui nous écoutent, qui sont par leur travail. Mais il y a pas besoin de faire de la radio, de la télé pour ça. Hein. C'est la même chose avec un boulanger, avec un gars qui fait les marchés. Avec voilà, il y a des gens qui ont des métiers où ils sont peu à la maison. Mais quand j'étais là, j'essayais d'être là. J'ai toujours essayé de réduire. Et par contre, quand je me suis retrouvé solo, je me suis dit, bon, bah là, tu n'as pas le choix. Une semaine sur deux.
Donc, c'est ça, un principe de garde, un système de garde.
Ouais. Une semaine, dès le début. Et je voulais pas qu'on... je ne voulais pas qu'on dise, ouais, il le fait pour la forme. Il sera jamais avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça a été des moments où j'ai appris à... je voulais pas qu'ils mangent de la merde. Pardon pour ce mot, mais je voulais pas de produits tout cuisinés, etc. Même si on va comme tout le monde hein, dans le drame du McDo une fois par semaine, évidemment, mais je voulais qu'ils aient des produits frais. Donc j'ai dû m'apprendre, moi.
Parce que tu découvres, effectivement, avec humour à nos confrères, je crois, de Gala, effectivement, tu as découvert, par exemple, le principe d'une machine à laver, le fonctionnement de ce type d'appareil.
Comme beaucoup d'hommes, j'ai découvert la machine à laver, j'ai découvert l'enfer de faire des courses de produits frais. C'est un truc que je faisais jamais. J'ai appris tout ça, j'ai appris à cuisiner, j'avais jamais cuisiné de ma vie. Et j'ai pris un plaisir à apprendre à faire des poissons, à apprendre à aller choisir des bons poissons, des poissons sans arrêt. Ma fille étant végétarienne, mon fils étant viandard, tu fais de la viande d'un côté, du poisson de l'autre. J'ai appris tout ça, j'ai appris. Et ça a été parfois très compliqué parce que quand j'avais des spectacles, là c'est vrai que si on parle d'une période qui paraît ancienne, mais il y a encore quelques mois, quand j'avais des spectacles et que je jouais à Nancy, et même parce que je mixe aussi, donc des fois parfois j'avais un mix derrière.
Est-ce que tu t'es dit je vais pas y arriver effectivement?
Non, jamais.
Il y a pas eu cette peur quand tu t'es retrouvé seul avec ces
enfants? Non, je me suis toujours dit. En plus c'était, on va rentrer dans un détail qui est un peu plus particulier, mais ça a été plus compliqué que ça parce que quand on s'est séparés, on a souvent l'image du papa qui repart avec les enfants, mais sans les meubles. Oui. C'est exactement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai dû racheter intégralement deux chambres d'ado. Ouais. Et ça, tu parlais de la machine à laver, mais je me suis retrouvé, moi, certains matins en réunion avec mes équipes, à regarder sur un site internet un panier à linge. J'avais jamais de ma vie commandé un panier à linge. Et je me suis dit, c'est utile, un panier à linge. Tu vois, donc j'ai dû recommander des serviettes, des tailles de serviettes de bain, des draps, des housses de couette. Et j'ai dû, à un moment donné, et je me suis jamais dit, je vais pas y arriver, parce que pas non plus totalement. Mais je voulais leur faire des trucs qui leur plaisent. Je voulais pas leur dire, voilà une chambre, c'est comme ça. Après, je me suis dit, il faut que je sois là malgré mon emploi du temps. Et je prenais un cercle, je traçais un cercle, en dessous de 450 km, je rentrais dans la nuit. Donc je rentrais, des fois j'arrivais à 5 heures du matin, mais quand. Parce que je rappelle, j'avais 16-17 ans, c'est pas non plus des bébés. Mais surtout quand j'arrivais le matin, j'étais là, les croissants étaient là, et quand ils ouvraient les yeux, j'étais là. C'est peut-être idiot, mais c'était important pour moi. Beaucoup de gens m'ont dit, qu'est-ce que t'en as à faire? De toute façon, ils se lèvent à midi. Ouais, mais c'est pas le problème. C'est comme ça qu'on installe une sorte de dérive au fur et à mesure, puis un seul coup, on dit, je rentre plus. Non, je voulais être là, c'était une règle de vie.
Question très directe, comment tes enfants réagissent quand vous leur annoncez avec leur maman que vous divorcez, que vous vous séparez, parce que c'est jamais facile, évidemment, pour des enfants.
Ça, c'est très perso, et puis je pense qu'ils aimeraient pas qu'on en parle, mais... J'avais juste eu les conseils d'une personne que je connaissais, parce que c'est très compliqué quand on est parent. S'il y en a qui nous écoutent, je pense que c'est le...
Il y en a beaucoup.
C'est la partie la plus compliquée. C'est la partie de se dire, bon, comment on l'annonce aux enfants? Moi, j'ai eu un conseil qui m'a mis du temps, qui m'a dit, ne te fais pas trop de mal à l'annoncer, parce que tu verras, les enfants sont extrêmement égoïstes. J'ai trouvé ça très dur. J'ai envie de dire, mais dis donc, comment tu parles de... Et il m'a dit un truc, les enfants ne pensent d'abord à leur confort. Et que globalement, si le confort est assuré, que si les parents sont là, que s'il n'y a pas de drame, que s'il n'y a pas de violence, que s'il n'y a pas d'insulte, ce qui était notre cas,
oui,
évidemment.
Voilà, ça, c'est de manière apaisée.
Bien sûr, que si le papa est toujours là et que la maman est toujours là, Mike m'a dit, si les enfants savent que papa sera toujours là, que maman sera toujours là en cas de souci et que globalement, il y a deux conforts de chaque côté, c'est-à-dire qu'il y a des chambres chez papa, il y a des chambres chez maman, il m'a dit, tu verras, une fois qu'ils auront la réponse à cette question, tout le reste va passer. Eh bien, il avait raison. C'est-à-dire que je pense que quand on prend un peu d'éloignement, c'est vrai que si, quand nous, on était enfants, on nous avait dit, voilà, malheureusement, ça va arriver, mais on te garantit que tes parents seront là pour toi.
Bien sûr.
Tes parents, parce que autant les parents peuvent être séparés, mais je pense que le jour où il y a quoi que ce soit, ça nous est arrivé avec mon ex-femme, ben, on est là. C'est-à-dire que s'il faut se retrouver dans la pièce, à un moment donné, d'un directeur d'école, parce qu'il y a une espèce d'orientation à prévoir, ben voilà, les
ça,
parents
ça, c'est
reviennent.
Très, très important. Une manière apaisée et finalement, des parents qui restent toujours là,
ça me paraît la base. Alors, évidemment,
ce qui n'est pas le cas dans toutes les séparations.
Mais non, et puis il y a plein de gens qui ne vivent pas la même chose, après, qui vivent des drames, qui vivent de la violence, qui vivent... Ça, vous ne pouvez pas dire à ces gens-là, il faut être apaisé. Moi, j'ai trouvé, très honnêtement, moi j'ai vécu un truc... Je voulais le mettre dans un prochain hypothétique spectacle, mais je n'ai pas encore trouvé la façon de le tourner de façon drôle. J'ai vécu un truc terrible, c'est quand je me suis retrouvé au tribunal. J'ai trouvé qu'il y avait une misère, une angoisse de voir tous ces couples qui ne se parlent plus, qui sont à 2 mètres l'un de l'autre. De voir cette espèce de commerce un peu de la tristesse des avocats, qui s'en foutent complètement de leurs clients. Vous allez devant un juge, qui s'en fout de vous, qu'en a 10 avant, 30 derrière, qu'à 10 minutes, qui n'a même pas une compassion. J'ai trouvé, peut-être parce que je suis ultra sensible, j'ai trouvé que cet endroit était horrible. Si on devait me dire quel est le pire endroit sur cette terre, je dirais une salle de tribunal de divorce. C'est horrible. C'est horrible. Il y a plus un mot, il y a rien qui se dit.
Pas d'humanité.
Vous tombez sur des juges qui savent que vous vivez un moment dur parce que certaines femmes vivent leur avenir, certains hommes vivent leur faillite. Enfin, attention, ça va loin. Hein. Tout ça un peu instrumentalisé parfois par des avocats qui sont pas de bons conseils, qui ne pensent qu'à prendre une partie de l'argent et qui veulent s'enrichir sur le dos de. J'ai connu, moi, des avocats comme ça, que j'ai remercié, hein, honnêtement, dans mon cas personnel, que je trouvais, c'était pas possible. C'est pas possible, cette violence. C'est pas possible. On parle de mon ex-famille, on peut pas gérer comme ça. On peut pas gérer dans la violence, dans vous allez voir, on va. Non, on va rien voir du tout.
Parce que tu souhaitais que ça se fasse de manière calme et tranquille.
Oui, mais surtout pas. Et je comprends que certains couples cèdent, et certaines femmes ou certains hommes cèdent à une espèce de bah, puisque c'est comme ça, tu n'auras rien, je vais tout te prendre. C'est horrible. Et vous vous retrouvez dans un endroit avec des juges, qui ont autre chose à faire que vous. Sauf que les 10 minutes qu'ils ne vous consacrent pas sont juste des 10 minutes très importantes de votre vie. Et je trouve qu'il y a un aspect tellement lointain. Je m'adresse vraiment, le ministre de la Justice doit réformer un truc dans ce pays, indépendamment de la lenteur, c'est d'humaniser cette partie-là.
Justice parfois défavorable au père, c'est ce qu'on entend.
Non, tout le temps défavorable au père. Mais bon, ça c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a parce que vous avez aussi une espèce d'avocats extrêmement entraînés qui sont là pour avoir des trucs qui déroulent depuis 40 ans. Mais indépendamment de ça, c'est pas grave. Vraiment, si le ministre de la Justice devait réformer un truc, il faut humaniser
ça. Il
y a des gens qui vivent des drames. Je parle pas de moi. J'ai vu des misères, j'ai vu des visages, je vous assure. J'ai vu des visages tellement tristes de gens qui se sont aimés à un moment donné. Et ça, c'est plus possible. Faut réformer ça.
Question plus légère. Comment est-ce qu'on gère du coup sa vie amoureuse quand on redient papa célibataire à plus de 40 ans? Tu avais expliqué chez Anne Romanoff, je crois que c'était sur Europe 1, que d'abord au début on est un peu foufou, on s'amuse, mais que rapidement les soirées télé en célibataire, finalement on y prend goût.
Oui, bah, je l'explique dans mon spectacle, j'ai fait Tinder d'ailleurs, j'ai essayé.
Mais ça c'est incroyable. Alors, quand on s'appelle Coé, quand on a cette tête, ce nom que tous les Français connaissent, comment on passe incognito
Ah non, on n'est pas incognito.
C'est un vrai avatar. Enfin, c'est pas un
avatar.
D'ailleurs, c'est un vrai...
D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le spectacle. J'avais deux phrases qui revenaient tout le temps. Il y en avait une qui était « Comment ça va ?» où on m'écrivait « Ça va ?» avec un S à chaque fois. Je me disais « Oh là là, ça, décidément. » Et l'autre était espèce de mytho, pourquoi t'as mis la tête de Koé ? Donc j'essayais d'expliquer que finalement, si j'étais mytho, j'aurais pas vraiment mis cette tête-là. Enfin, tu vois, il faut être con pour mettre ma tête. Bon, ceci dit, il paraît que d'autres le font de temps en temps en usurpant les gens connus sur, sur d'autres sites. Mais parce que c'est léger, parce que c'est un moment où vous vous dites, vous bossez beaucoup, vous rentrez chez vous, il est 20h. Bah, si il y a un moyen, vas-y, honnêtement, alors je l'ai pas fait très longtemps parce que c'était presque amusant, parce que des fois vous recroisez des gens que vous avez vus dans les bureaux qui défilent devant vous. Bah oui, parce que c'est marrant, les applis de rencontre, on a l'impression que c'est le truc le plus honteux de la Terre, que ce soit Tinder ou les autres. Quand vous dites aux gens, vous le faites, ils disent non, moi non.
Mais tu as pu quand même rencontrer des personnes.
Ah ouais, mais toi, je vois pas énorme. Mais j'ai fait des rencontres très sympas, en revanche. De gens qui sont restés que... Vous voyez, c'était ça que j'ai trouvé génial quand on prend de l'éloignement. C'est que c'est à la base une rencontre qui est faite pour, pour rencontrer amoureusement. Ou pour baiser, pour les gens qui le veulent. Mais des fois, il y avait zéro, il y avait rien. Mais par contre, j'ai vu des gens géniaux que j'aurais pas rencontré, drôles, que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas sorti la tête de mon métier. Parce que je vais pas draguer sur mon Instagram, parce que je vais pas draguer sur ma chaîne YouTube. Le boulot, c'est le boulot. Je drague pas à la sortie des spectacles. Moi, quand j'ai fini le spectacle, je rentre. Donc, il y a un moment, vous savez, vous pouvez rester célibataire jusqu'à 70 ans avec ce rythme-là.
Allez, puisqu'on parle de ta notoriété, j'aimerais qu'on évoque maintenant la manière dont ta célébrité a pu changer ou non, tu vas nous le dire, hein, le quotidien de tes enfants. Première question, est-ce que cette notoriété, alors on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, a pu être pesante pour eux, être un fardeau ou pas du tout ?
Non, mon fils s'en fout complètement depuis qu'il est petit.
Il a connu par exemple la méthode Koé, il avait quoi, 7 ans, 7-8 ans ?
Il y a eu une fois un jour, et je ne sais pas si c'est la discussion que l'on a eue, il devait avoir 12-13 ans, et ça n'allait pas, et je lui dis, mais il y a un truc qui ne va pas, il me dit, il y a un garçon à l'école qui m'a dit, ton père c'est un con. Mon fils m'a expliqué qu'il s'est fâché, il a failli se battre et ça. Mais je lui dis mais regarde, enfin, il me connaît pas. Ça vient certainement de son père qui m'a vu ou entendu à la radio, qui a dû dire ah bah lui c'est un con. Alors je lui dis quelle est la part de vérité, de jalousie. Je lui dis ce papa a peut-être un métier pas drôle. Peut-être que ça le rend dingue d'imaginer le fantasme du gars qui gagne beaucoup d'argent en racontant des conneries à la radio. Donc ça l'énerve. Donc je suis un con. Je raconte des trucs à la radio. Peut-être que je me suis moqué d'un truc qu'il aime pas. Donc je suis un con. Et puis peut-être qu'il pense réellement que je suis un con. Mais je lui dis, mais malgré tout, regarde ta vie. Je lui dis, on est bien. On est heureux. On s'amuse. On part en vacances. On a la chance de là au soleil quand il fait beau. D'avoir une belle vie. Je lui dis finalement, c'est ce que tu dois retenir. Il dit ouais, voilà. Je m'a dit ouais, non, mais t'as raison. Oh, en fait, t'as raison. Ça doit être son père. Et puis ça s'est arrêté là. Et je crois qu'il n'a plus jamais eu de problème. Et il est très en distance avec ça.
Pas de fierté quand même. J'imagine quand les gamins dans sa classe disent bah quand même, c'est ton papa, on l'a entendu, on l'a vu.
Ma fille, peut-être plus. Mm-hmm. Parce que ma fille, elle se met en avant dans les réseaux sociaux. Enfin, je l'ai initié un peu à ça, et puis parce qu'elle a pris goût derrière.
30 000 abonnés sur Instagram.
Ouais, puis bon, alors que mon fils s'en fout complètement. Lui, il en a rien à faire d'Instagram. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il est dans le gaming, le e-sport, le reste autour. J'ai fait un truc sur Twitch la semaine dernière avec lui parce que je lui ai dit, voilà, on va essayer ensemble. On a joué un jeu vidéo. Et puis, tous les 15 jours, on va faire un truc où on joue aux jeux vidéo ensemble. Il est très gamer et moi je suis pas du tout. Surtout, je n'ai pas de patience.
Et dans la rue, par exemple, quand plus jeune, quand on venait te voir pour un autographe, un selfie, tes enfants, ça les amusait parce que c'est quand même un quotidien particulier quand on a un papa qui est reconnu, connu.
Ils s'en moquent. Vraiment, ils ont mon fils. Je mange avec lui, il va dire bon, écoute, je crois que derrière, ils veulent des photos. Enfin. C'est lui qui fait les photos. On est dans la rue, c'est lui qui fait l'appareil photo. D'ailleurs, c'est un très mauvais photographe. Je m'excuse auprès de tous les gens qui ont dû avoir des photos où ils n'ont vu que mes pieds ou le lampadaire de derrière, parce que pour faire des photos, il n'est pas très bon.
Merci Valmont.
Voilà. Mais honnêtement, c'est pour eux, c'est normal. Mmh. Ça a jamais été un truc. Voilà. Quand il y avait des fois des sorties de spectacle où il y avait trop de monde ou des sorties de radio, il y avait toujours quelqu'un. Jeff qui bosse avec moi, tac, il les mettait tout de suite dans la voiture. Voilà, ça n'a pas été une vie plus cachée que ça. Faut pas être plus vedette que ce qu'on pense. C'est-à-dire que tu t'entends toujours des gens qui disent « Ouais, je peux pas sortir un samedi, il y a trop de monde, tout le monde va me sauter dessus, je vais mettre des lunettes. » Mais non, non. en fait, dans la vraie vie, non. Non. C'est-à-dire que tu sors dans la rue, et heureusement qu'il y a plein de stars qui sortent dans la rue et qui mangent au restaurant. Non, voilà. Après, quand vous êtes à Paris, c'est encore pire, parce que le phénomène, il est à Paris, on s'en fout un peu, on voit plein de vedettes. Alors, c'est vrai que quand vous arrivez dans des petites villes de province, les gens, il y en a une qui vous demande un autographe, c'est 15 qui vous demandent un autographe. Mais c'est pas grave. Ça vous empêche pas de manger. Ça vous empêche pas de vivre. Au pire, vous avez passé 10 minutes à faire des autographes à des gens et 10 minutes à faire des photos. Des fois, quand les gens viennent en plein milieu du repas, je suis avec les enfants, je dis, écoutez, juste, alors venez dans 10 minutes au café, je vous fais toutes les photos. Les gens reviennent. Faut pas oublier, quand vous faites une photo pour quelqu'un, c'est une minute de votre temps et c'est peut-être une année de bonheur pour cette personne.
Et j'aimerais pour finir qu'on revienne quelques années en arrière, qu'on parle de ton enfance avec des blessures, des drames qui permettent de mieux comprendre l'adulte que tu es devenu. Tu en avais parlé, moi j'ai trouvé très touchant ce livre dans ton autobiographie parue en 2019 aux éditions Robert Laffont. Tu as perdu ta maman à l'âge de seulement 10 ans, ton papa 10 ans plus tard quand tu avais 20 ans, cette histoire. Est-ce que tu en parles souvent à tes enfants ?
Jamais.
Jamais.
Jamais parce
qu'ils ont lu ton livre.
Je crois que mon fils a lu le début et ma fille, non. Je leur ai dit, c'est pas grave, vous le lirez à ma mort. Mais bon, en même temps, quand t'as 18 ans, t'as pas envie de lire le livre de ton père. Enfin, tu vois, honnêtement, soyons honnêtes. Et s'y plongeons un jour. Mais moi, j'ai fait ce livre pour... qui était un livre, en fait, c'était un double livre. C'était un livre d'espoir, c'était un livre pour dire à des gamins qui vivent dans des banlieues, dans des villages, qui disent « Ah, on n'a rien, on est pauvre, ah, on est noir, ah, on est différent, ah, on est nos parents sont des petits épiciers, ah, nous, on n'est pas... » C'était pour dire à tous ces gens-là, la couleur de la peau, les origines, machin. Non, c'est la passion qui compte. Mes parents étaient ouvriers, toute ma famille était ouvrière. J'étais dans un petit village et je me suis dit très tôt, je me suis dit « Ça, c'est pas pour moi. Je suis pas un manuel, je n'ai rien contre les petits villages, j'ai passé une jeunesse extraordinaire, mais je savais que c'était pas pour moi. » J'ai perdu mes parents, ce qui fait que c'est vrai que je me suis retrouvé à l'âge de 20 ans à gérer des merdes, mais en gardant aussi ce délire de voilà quand même le métier que je veux faire. Il y a des gens de ma famille qui étaient venus me voir en me disant oh, tu vas être obligé de retourner à la sucrerie hein, comme ton père. Hein, tu peux pas aller faire ton métier à Paris. Enfin regarde, tu es seul. Et ben si, je l'ai fait. Mais et aujourd'hui j'essaie d'expliquer à mes enfants les valeurs. Vous savez. J'ai ma chérie avec laquelle je suis en ce moment a aussi deux enfants et elle les a aussi très très bien éduqués là-dedans dans les valeurs et je crois que c'est quelque chose de très important. J'aurais pas par exemple accepté d'être le beau papa de deux gamins ultra mal élevés.
Ça pour toi c'était effectivement un critère.
Non.
Quand on se met avec quelqu'un, les enfants font partie du package.
De petits cons là qui s'accrochent au plafond ou qui t'insultent, mais jamais de la vie. Non, mais attends. Ah non, je supporte pas ça. Non, mais il y a des merdeux, faut pas.
Ils ont quel âge ?
Il faut dire les choses. Il y a des gamins, ils sont horribles.
Ils ont quel âge ? C'est deux enfants.
Ils ont 13 et 14. Faut pas que je me trompe.
L'âge dur, l'âge difficile.
Oh, alors pas du tout dans leur cas. Ils sont. C'est vrai. Non, mais ils sont très intelligents, très. Et puis voilà. Et puis je trouve que. J'aime bien le rôle de beau-papa aussi. C'est très marrant, ce rôle, parce que c'est le rôle de père avec une petite pression en dessous. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils ont un papa qui n'était surtout pas là pour remplacer.
Oui, alors que parfois difficile d'asseoir son autorité avec des beaux-enfants.
Oui, mais parce que, encore une fois...
La tâche est parfois plus dure.
Oui, mais parce que quand il y a besoin d'autorité, en l'occurrence, ils n'ont pas besoin de cette autorité. Voilà, moi, je suis plutôt là pour être de bons conseils, pour être plus cool, pour passer du bon temps avec eux quand ils en ont envie.
Et vous habitez ensemble avec les enfants ? Ça se passe bien quand les enfants sont à la maison ?
Franchement, ouais.
C'est super. Donc, c'est quoi ? C'est une harmonie retrouvée
C'est
toujours joli quand des familles recomposées, effectivement.
Vous avez les petits pics, des fois, de l'un qui n'est pas de bonne humeur. Quand vous mettez six personnes autour de la table, c'est assez rare d'avoir six bonnes humeurs en même temps. Vous avez des fois un qui n'est pas content, un qui trouve que c'est nul.
La greffe, pardon pour le mot, qui n'est pas très joli, mais elle a pris.
Elle a très bien pris parce qu'elle a été cool, et puis parce que tout le monde a été cool, et puis parce que. Je pense qu'il faut avoir une vision de la vie, de se dire quand on a de la chance d'être aujourd'hui en bonne santé, honnêtement, on a la chance d'être en bonne santé. On a la chance de faire un métier que l'on veut. Moi, j'ai 48 ans, j'ai 48 balais. Chaque matin, je me lève et je me dis, ma mère est morte à 48 ans. Vous doutez bien que 48 ans pour moi est un âge qui fait effet dans ma tête, qui fait écho, pardon. Et je me dis, quand je je me dis, j'ai de la chance d'être en super bonne santé. J'ai de la chance de ne pas avoir mal aux jambes, aux pieds, de pouvoir marcher 6 km quand j'en ai envie. Bon, bah, quand vous avez cette chance d'avoir ça, franchement, quand vous devez reconstituer une famille avec deux personnes qui s'aiment, c'est que de la rigolade. Mmh. Si vous êtes malin, bah, faut faire avec les humeurs de chacun, les oui, les non de chacun, et puis à un moment donné, les choses vont bien. Mais si
la question n'est pas trop indiscrète, Koué, dans quel cadre as-tu rencontré cette...
Ça fait partie de choses hors Tinder, en fait. Non, mais j'avais déjà annulé l'appli de cinéma. Qu'est-ce que j'ai parlé de cette appli? J'avais déjà arrêté le truc depuis longtemps. Parce que, par contre, ça, c'était un exercice qui m'avait fatigué, ça. L'exercice de la rencontre...
Oui. Comme un entretien d'embauche, c'est
de
ça.
On prend un café et de ah mais je crois pas que ce soit toi. Non, alors là, ça m'avait fait marrer à un moment donné parce que ça occupait mes soirées de célibataire. Puis bon, à un moment ça m'a. Moi j'ai dit bon ça va, c'est pas le but dans la vie, c'est fatigant et voilà. Mais non, c'était vraiment au Touquet avec une soirée d'amis et. Voilà, c'est ça que j'aime dans la vie, c'est ces projets qui arrivent dans le boulot, vous y attendez pas, c'est ces évolutions, c'est ces rencontres, voilà, je trouve que malgré tout, on vit des belles choses, des fois avec des cons. Alors voilà, la vie, c'est toujours des accalmies entre deux tempêtes. Bah, je trouve que quand on est entre deux tempêtes, faut savoir profiter de l'accalmie. Et faut savoir avoir conscience des choses et qu'on vit des belles choses.
Donc un Sébastien Koué épanoui aujourd'hui en amour et familialement.
Je m'énerve tellement à haute voix. Mes émissions, c'est une thérapie. Je m'énerve tellement à haute voix sur plein de trucs que finalement, dans ma vie privée... Vous savez, dans ma vie privée, ma chérie dit toujours que je suis une énorme arnaque.
C'est-à-dire
qu'elle... On imagine que je suis quelqu'un de très énervé, quelqu'un qui fait le show en permanence, et encore que dans la vie, je ne suis pas du tout comme ça. Mais pas du tout. Dans la vie, je suis quelqu'un de très posé, calme, qui aime la musique lounge en douceur chez moi, qui aime faire un feu de cheminée. Je bois pas de vin, je bois pas d'alcool à part une coupe de champ. Je suis pas fumeur. Je suis un mec plutôt. Oh là là, je suis très dans ma vie. Elle est tellement speed à d'autres moments que ma vie est très très calme. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est ces contrastes là et c'est pouvoir se poser et profiter des choses.
Tes parents, j'imagine que tu les imagines souvent jouer avec tes enfants.
Mon père aurait été un grand-père extraordinaire. Mon père aurait été. Ma mère était géniale, mais ma mère était très stricte.
Maman plus stricte, effectivement.
Elle m'imaginait ingénieur, c'est pour dire. Ingénieur ou pilote de chasse dans l'armée ou polytechnique. T'imagines ce que je serais devenu
les
avec ma mère.
Les ambitions sont hautes.
Avec ma mère, je serais peut-être patron d'entreprise. Bon. Mon père était beaucoup plus cool. Mon père, il voulait que je réussisse à l'école. Comme j'avais de très bonnes notes, il avait deux totems qui étaient très importants pour lui. Il fallait que je réussisse à l'école et que je ne fasse pas de deux roues. Moi, ils m'ont appris des valeurs que j'essaie d'inculquer à mes enfants tout le temps, sur le respect des gens. Moi, je peux me moquer de plein de gens à la radio. J'ai un vrai respect de l'humain, de la personne, d'une personne âgée dans la rue, alors que je peux faire une vanne sur les personnes âgées dans l'après-midi. Ça ne me viendra jamais à l'idée de me moquer. Voilà, je suis très, très respectueux. Ils m'ont appris le respect de l'argent aussi, c'est important. C'est important le respect de l'argent.
Et le rapport à l'argent quand on est papa, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on a peut-être plus tendance à investir, à mettre de côté?
Plus que si
on était jeune célibataire.
Oui, on met de côté et puis en même temps, moi je pense que ça ne sert à rien. Enfin, je comprends tous ces millionnaires, milliardaires qui comptent jusqu'à la fin de leur vie, mais je ne suis pas sûr qu'être le mec le plus riche de l'allée du cimetière soit très intéressant. Je pense que l'argent, c'est fait pour faire attention, et puis c'est fait pour vivre. C'est bon, à un moment donné, si dans la vie, il y a des gens qui ont envie de s'offrir une voiture, eh ben, faut se l'offrir. Tu vois, à un moment donné, on va pas... évidemment, si ils peuvent pas se l'offrir, ils peuvent pas, mais je pense que l'argent fait partie de ces petites choses dans la vie qui font que tout ce que tu prends comme bonheur, c'est tout ce que tu as déjà pris. Si j'étais extrêmement riche, je ferais une fondation. Je trouve que ça, c'est le... Vraiment, je le dis, c'est le summum du mec riche. Je pense que c'est
dédié à l'enfance.
Dédié à beaucoup de choses. Franchement, je vais te dire, je trouve que si un jour les choses continuent de sourire pour moi et que j'ai la possibilité de le faire, je trouve que monter une fondation où chaque jour tu gères une école en Afrique, tu vas gérer protection de l'enfance en Asie. Moi, je pense que si tu fais ça, chaque jour, tu dois t'endormir serein. Tu te dis, pour le karma, j'ai sauvé 30 gamins. J'en ai pas sauvé le monde entier, mais j'en ai fait 30, plus 30, plus 30, plus 30. Voilà, ça, c'est le jour de choses à laquelle j'aimerais bien participer à la fin de ma vie pour mes vieux jours. Pour m'acheter une place au paradis, parce qu'on ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Si ça existe vraiment, vaut mieux être du bon côté.
Allez, pour conclure cette discussion très sincère, Sébastien, imaginons, dernière question, que Valmont et Ivana nous écoutent. Écoute ce podcast, hein, viennent d'écouter cette discussion. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Quel message aimerais-tu leur adresser? Ils nous écoutent en 30 secondes pour Valmont.
Deux en même temps?
Un par un, on peut faire d'abord.
Valmont, continue de trouver ta voie, mon grand. Continue de... sors un peu de tes jeux vidéo, parce que la vraie vie, elle n'est pas que sur les écrans. Et essaie de partager les deux et de partager encore du temps avec ton père, parce que les années passent et que ensuite avoir des souvenirs, c'est bien, mais continuer de faire des choses chaque jour avec ses parents. Moi, c'est le regret que j'ai avec mon père, c'est que j'ai pas tout fait, j'ai pas tout dit, et la vie peut vous emporter à tout moment de n'importe quoi. Donc je pense que la vie, faut pas avoir de regrets, donc continue de kiffer des trucs avec moi. C'est important. Et essayer d'apprécier les voitures, parce que j'ai un fils, je rêvais d'avoir un fils qui, comme moi, avait la passion des voitures. Il n'en a rien à foutre, c'est absolument terrible. Mais et ma fille qui, elle, est passionnée par les bagnoles, comme quoi ma chérie, continue de t'éclater, continue de profiter de ta vie et bosser, parce que rien n'arrive sans travail dans une vie. Même si t'as un peu de talent, même un joueur de l'équipe de France, il a besoin de s'entraîner. S'il veut mettre des buts, le talent pur et le génie ne suffit pas.
Parents d'abord.
Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur AudioNow, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.